Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Vous partagez beaucoup avec Jacques Derrida, j'ai l'impression. Vous étiez amis, vous travailliez, et vous écriviez ensemble et vous partagez deux parcours ou deux origines, l'Algérie et le judaïsme. Et vous êtes tous les deux venus en France dans les années 50. Comment et quand vous êtes-vous rencontrés?
Alors, en 1962 ou 63, nous avons toujours hésité, mais dans les archives de Derrida, on trouve les premiers signes. Il dit que c'est une carte postale que je lui ai envoyée. Et à partir de là, on pourrait dater extrêmement précisément. En fait, nous avons 7 ans de différence. Quand nous étions jeunes, c'était une génération. Maintenant, c'est rien. Voilà. Alors, partager l'Algérie et le judaïsme, c'est vrai. Et en même temps, il faut préciser ce partage. Quand nous nous sommes rencontrés, donc en 62, j'avais 25 ans. Et lui, donc, 32, il dit dans les textes qu'il a écrits sur moi, parce qu'il a écrit plusieurs fois des livres sur moi, il dit qu'il avait à peu près 35 ans et que donc c'était le milieu de sa vie. On dit ce genre de choses en imitant Dante, sauf que c'était presque vrai pour lui sans qu'il le sache. La première fois que nous nous sommes rencontrés, c'est moi qui avais demandé. J'habitais dans le sud-ouest, où je suis en ce moment d'ailleurs, dans la région de Bordeaux, où j'enseignais, j'étais universitaire à Bordeaux. Et je lui ai écrit parce que je voulais pouvoir discuter avec lui de littérature. Et en fait, de Joyce, qui était le sujet de ma thèse, de James Joyce. Ce qui nous a toujours passionnés, c'est que nous avons eu plusieurs commencements. Alors, le premier commencement est un commencement où nous étions ensemble sans lettres. J'avais 18 ans, j'arrivais d'Algérie, je ne connaissais pas l'Europe, sauf l'Angleterre, où j'avais été plusieurs fois, parce que justement, une partie de la famille allemande de ma mère avait émigré en Angleterre, et j'étais une étrangère complètement au monde français. Et dans mon égarement de nouvelle arrivée, venant de ce pays colonial affreux qu'était l'Algérie, j'ai poussé la porte d'un grand amphithéâtre à la Sorbonne. Le théâtre. Et en fait, la métaphore comme ça, du lieu théâtral nous a toujours suivis. Et je me suis assise au fond d'une salle immense, et tout à fait en avant, un jeune homme parlait. Lui-même était face à un jury. Ce jury était un jury d'agrégation, c'est-à-dire le concours le plus élevé dans l'enseignement français et dans la recherche. Et alors moi, j'aurais pu voir les figures, les visages des jurés, mais je ne voyais pas le jeune homme. Je voyais son dos et j'entendais sa voix. Et sa voix parlait sur un sujet philosophique qui était la pensée de la mort. Alors, Denken am Tod, ou quelque chose comme ça.
Yeah.
Ou Tod Denken. Voilà.
Et est-ce que l'origine d'Algérie, est-ce qu'elle a joué un rôle dans votre relation?
Alors, oui, plus tard. Ce que je trouve intéressant et pittoresque, c'est qu'au commencement, pas du tout. Ou plutôt de manière spectrale, c'est-à-dire que nous n'avons pas du tout parlé d'Algérie. Et pourquoi? Tous les deux, nous étions en fuite. Notre désir, c'était de nous éloigner de l'Algérie, d'éloigner l'Algérie de nous. D'éloigner les violences colonialistes, la guerre et la haine, le racisme, tout ce que Algérie couvrait. Et par contre, nous avions tous les deux autrement, puisque je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas, le désir passionné de littérature, d'écriture, surtout d'écriture, et de langue. Et c'est beaucoup plus tard, enfin c'est vraiment, peut-être, je ne sais pas, peut-être 15 ou 20 ans plus tard, que l'Algérie est devenue au contraire très présente à cause des combats philosophiques aussi et des combats de société qui repassaient par l'Algérie. Alors probablement, ça, il faut le dire, sans que nous le sachions, le fait que nous soyons nés en Algérie, c'est ce qu'on peut dire. Quoique moi, je considère que je suis née en Algérie et en Allemagne. Et le fait que nous ayons tous les deux connu le choc entre l'être juif et la réalité en général, et que bien sûr, ça nous est marqué infiniment. A certainement aidé à ce que nous ayons une familiarité immédiate, c'est-à-dire que nous avons, en fait, nous parlions les mêmes langues. Nous voulions parler un français créateur, poétique, et nous parlions des langues qui étaient des langues qui avaient été blessées et qui étaient préoccupées par les mêmes grandes questions philosophiques.
Donc, est-ce qu'on peut dire que la relation au judaïsme était plus présente dans votre relation ?
Non. Elle était comme, si vous voulez, c'était presque une question, c'était un peu comme un tissu, comme si nos corps et nos esprits étaient taillés dans les mêmes tissus. Mais là aussi, nous n'avons pas parlé de judaïsme tout de suite. Parce que c'est un peu, si vous voulez, pour lui, comme par exemple le thème juif, comme le thème Marx. Tous ces thèmes, c'est des thèmes qui pouvaient faire dévier son travail, parce qu'il fallait à ce moment-là répondre dans l'urgence et dans l'actualité, au lieu de répondre profondément et vers l'avenir.
Jacques Derrida a parlé parfois de lui-même comme un juif. Et
oui.
Parfois, il a parlé de lui-même comme un franco-maghrébin. Par exemple, dans son texte sur le monolinguisme de
oui.
l'autre.
Oui.
Qu'est-ce que c'est que ça, un franco-maghrébin ?
Ça, c'est quelque chose que lui, c'est une formation qu'il fabrique à son propre usage. Pour lui, franco-maghrébin, c'est être pas tout à fait français, c'est-à-dire français relevé de maghrébin, maghrébin c'est évidemment l'Afrique du Nord, ou bien être un maghrébin français, enfin un mélange. Et c'est vrai que de toute façon, la question du mélange, du métissage, de l'altération, tout ça c'était toujours très très présent. Hein. Mais alors le dernier des Juifs, c'est très intéressant parce que c'est typiquement une expression de l'idiome d'Héridien, ou ça pourrait être du mien aussi. Donc une certaine langue. Il s'appelait lui-même le dernier des Juifs. C'était
ah.
pourri. Voilà. Mmh. Et il a écrit là-dessus, sur le dernier des Juifs. Il a écrit un texte qui s'appelait « Le dernier des Juifs ». Alors qu'est-ce que c'est « Le dernier des Juifs » En français, c'est parce que c'est idiomatique, et donc c'est intraduisible. Tout ce qui est idiomatique est intraduisible. Mmh. Ça, on l'avait aussi en commun,
mais
intraduisible.
Comment pourrait-on le traduire quand même ?
On ne peut pas le traduire. Alors, donc, justement, ça, c'est très important. Le dernier des Juifs, ça veut dire, d'une part, il n'y en a plus, voilà.
Der letzte der Juden.
Oui, mais ce n'est pas ça que ça veut dire.
Mm-hmm.
C'est der letzte der Juden, d'une part, et en même temps, idiomatiquement en français, il existe une expression qui, je suis le dernier des imbéciles, ça veut dire le plus imbécile,
mm-hmm.
et ça veut dire aussi le moins imbécile.
Mmh.
Le dernier des Juifs, c'est le plus mauvais des Juifs, le plus nul des Juifs, et le contraire.
Et ça veut dire quoi
en
relation de lui-même ?
En relation de lui-même, c'est que, évidemment, on ne peut pas dissocier. S'il est le dernier, il est le plus... Alors, on est presque du côté du Talmud ou de la grande littérature juive, c'est-à-dire, ou de Kafka. Et il ne reste plus que lui, il n'y en a qu'un, c'est le plus précieux. S'il n'y en a plus qu'un, alors bon. Voilà. Et profondément, dans le fond de son âme, mais dans le fond, pas au milieu, et peut-être pensait-il ça, qu'il était le plus précieux. Pourquoi ? Parce que le plus compliqué, le moins juif, le plus mauvais juif, celui qui est nul du point de vue de la culture, ce qui était vrai, hein, du point de vue de la culture, à part le fait qu'il avait été soumis, et c'était une épreuve épouvantable, à la circoncision, il a beaucoup écrit là-dessus, énormément. Donc, à part le fait qu'il se sentait marqué par la circoncision, c'est-à-dire un acte qui le détermine pour l'éternité et auquel il n'est pas présent. Et il n'est pas présent parce qu'on fait ça à un bébé de quelques jours. Donc, on ne lui a pas demandé son avis. C'est un juif de force. Voilà. Juif, bon gré, mal gré. Ce sont des choses que beaucoup de personnes d'origine juive, enfin des hommes, c'est une histoire d'hommes, hein, peuvent éprouver. Mais chez lui, c'était aigu et philosophique. C'est la trace. C'est une trace, c'est un traumatisme. Et c'est en même temps, d'autant plus justement, qu'il a à ce moment-là, alors comme je dirais moi, quand je l'ai vu la première fois dans cet amphithéâtre de la Sorbonne, il a le dos tourné. Il ne sait pas, voilà. on le lui fait, on le fait juif.
Et est-ce qu'il y a des traces franco-maghrébins ou algériens aussi dans l'œuvre de Jacques Derrida?
Du point de vue culturel, enfin, tout ce qu'il fait est franco-maghrébin si on accepte ce qu'il le dise, s'il signe comme ça. Mmh. Mais d'un autre côté, non. C'est évidemment une pensée totalement humaine, humaniste, universelle. Et pas du tout, ou alors seulement si on considère justement que franco-maghrébin, c'est humain. Voilà, c'est une métaphore. C'est une métaphore.
Humain ou humaniste ?
Humaniste, d'une certaine manière, si on le prend au sens tout à fait premier du mot, c'est-à-dire ayant un rapport très très fort aux humanités et aux humanismes, à la culture, à l'érudition, aux livres, à la bibliothèque, ça oui.
Si je pose aujourd'hui toutes ces questions sur les origines de Jacques Derrida ou sur les parcours de Jacques Derrida, c'est peut-être parce qu'il y a aujourd'hui cette grande querelle sur les identités collectives et les ce qu'on appelle identity politics.
Oui, c'est évident que un des thèmes les plus importants de tout ce qu'il a écrit, c'est une résistance absolue à l'identité. Mmh. Et au un, surtout pas, il n'y a pas de un, à l'identification. Enfin bon, moi aussi, ça nous a évidemment complètement rassemblés. Parce que moi, de toute manière, par exemple, pour penser le sujet compliqué que j'étais, qui était compliqué, et qu'il était doublement tout de suite dès qu'on se parlait avec Derrida, parce que lui, pour lui, il avait une sorte de racine terrestre ou terrienne qui était quand même l'Algérie. Bon, moi, j'étais multiple dès le départ avec ma famille allemande qui déjà était infiniment divisée parce que ce n'était pas seulement l'Allemagne, c'était aussi l'Autriche, la Hongrie, tous les pays de l'Europe en fait. Et ça s'est ensuite, après le nazisme, ça s'est encore infiniment disséminé et multiplié. Ça, plus le fait qu'on ne peut pas, pour moi par exemple, une femme ne peut pas être, on peut être juif, mais ça ne veut rien dire pour une femme. Voilà. Le judaïsme, c'est le judaïsme de l'homme. Mmh. Et maintenant, il y a des mouvements, bien sûr. Il y a des femmes rabbines, etc. Mais en fait, traditionnellement, il n'y a pas de femmes. Ça, c'est une chose qui m'a toujours absolument rebutée et qui pose d'énormes questions. Qu'est-ce que ça veut dire être juif ? En tout cas, ce n'est pas être juive. Et donc, dès le début, je me suis sentie innombrable. En étant née en Algérie de ces familles multiples, J'ai eu affaire justement à ça. Et puis, je me suis aussi posé la question de est-ce que je suis femme ou est-ce que c'est-à-dire, est-ce que je suis dans les luttes, dans les violences, dans les résistances, ou est-ce que je dois me porter? Est-ce que je dois me porter dans un combat contre l'antisémitisme ou contre la misogynie? Et j'ai dû, ce qu'on appelle maintenant intersectionnalité dans le monde du féminisme, j'ai commencé comme ça. Mais avec lui, je pouvais en parler. Et seulement avec lui, parce que la pensée française à l'époque, elle n'était pas consciente de tout ça.
Peut-être comme question dernière, qu'est-ce qui vous manque chez Jacques Derrida, pour vous-même, mais aussi pour le monde intellectuel ou pour le public ?
Vous voulez dire maintenant ?
Oui.
Parce que rien ne m'a jamais manqué, il a toujours été tout. Alors moi, je dirais que ce qui me manque, à moi, évidemment, c'est l'ami absolu, c'est-à-dire l'unique, c'était l'unique, et je crois qu'on était unique l'un pour l'autre. Ça, c'est évidemment c'est un irréparable que j'avais déjà vécu avec mon père, donc ce n'est pas le premier irréparable de mon existence. Mais par contre, je pense qu'il manque vraiment, moi je dirais, franchement, j'ose dire qu'il manque à la planète. D'abord parce qu'il avait une pensée qui était capable de se déplacer planétairement, de se préoccuper de ce qui se passait en Afrique du Sud, de ce qui pouvait se passer en Australie, n'importe où, en Chine. Il pensait, et bien sûr, là où on ne peut pas arriver à penser, ou la pensée déchiquetée, par exemple, sur le territoire où Israël et la Palestine sont en querelle mortelle. Bon. Donc là, je crois qu'il manque, parce qu'on a toujours besoin... Et ce qu'il a fait, par exemple, quand il y a eu 2001, quand il y a eu le séisme des tours, il a commencé à penser ce qui n'avait jamais été pensé. Il a commencé à penser qu'on ne pouvait pas parler de guerre à ce moment-là, et que tous les mots qu'employaient les Américains, rapidement, et qui étaient des mots de guerre, qui étaient des mots anciens, étaient dépassés. Qu'il fallait trouver une autre façon, justement, de, comme s'appelait son livre, le concept du 11 septembre, il fallait déplacer la pensée pour qu'elle arrive à se mesurer avec une réalité de plus en plus complexe. Ça manque parce qu'il n'y a personne. Il n'y a que lui. Ça ne veut pas dire que je pense que c'est pour l'éternité, parce qu'il y a toujours de l'avenir. Et il y a un successeur que je ne connais pas, qui est peut-être une femme d'ailleurs, et qui n'est peut-être pas encore née, ou qui est déjà née, ou qui arrivera. Mais pour le moment, en tout cas, le monde est privé de lui.
D'accord. Mille merci pour cette très, très intéressante conversation pour moi.
Vielen Dank.
Danke. Und einen schönen Tag noch.
Ja. Merci.